Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, comme vous avez entendu au générique, c'est le groupe d'Évreux d'Amnesty International qui est au micro pour sa première émission du mois de novembre, de 19h à 20h, toute l'actualité des droits humains vue par Amnesty International. Alors, avec moi ce soir pour en parler, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Renan, Renan qui sourit derrière de en face, là, derrière ses manettes.
Bonsoir.
Et puis moi, il y a moi.
Donc toi, c'est Didier.
Donc ce soir, on a comme toujours un ordre du jour et un menu qui est assez chargé, assez copieux. On va commencer tout de suite et on va vous parler de différents sujets. Hein, je vais vous en dire un mot. Sabine vous parlera de l'évolution de projets de loi extrêmement pénalisant pour les homosexuels en Égypte.
Évolution, c'est vite dit. Moi, je dirais plutôt régression.
Voilà. Françoise va vous parler de l'Iran aussi.
Oui.
Renan va vous dire quelques bonnes nouvelles quand même, parce qu'on en a, comme toujours, bien sûr. Françoise aussi vous fera un appel à l'action. Et puis, moi, je vais vous développer un dossier qui est paru dans le dernier numéro de la chronique, qui est le mensuel d'Amnesty France. Un dossier consacré à la situation des droits à l'avortement, vu dans 4 pays. Voilà. Donc, voilà pour l'essentiel jusqu'à la fin de l'émission. Et puis, on terminera par nos actions et nos informations locales, comme toujours. Donc, voilà, pour commencer l'émission de ce soir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en ce moment pas mal de choses qui sont dites sur des nouveaux scandales financiers et des scandales d'évasion fiscale. Ça s'appelle maintenant les Paradise Papers, et qu'il y a plusieurs millions de documents qui ont été mis à jour par des journalistes et qui prouvent qu'encore une fois que les gens les plus riches, les sociétés les plus riches, etc., etc., s'arrangent pour ne pas payer ou payer très peu d'impôts aux États où elles ont leur siège, où elles devraient payer quelque chose. Et Amnesty, effectivement, encore une fois, précise que c'est une situation parfaitement anormale. Alors voilà ce qui est dit. Il est temps de faire face à l'évasion fiscale. Pourquoi ? Les droits économiques et sociaux sont tous menacés. Les Paradise Papers contiennent des informations sur les affaires financières offshore de centaines d'hommes et de femmes politiques, de célébrités, de riches particuliers et d'entreprises multinationales, et sont issus d'un ensemble de 13,5 millions de documents. L'évasion fiscale et les pratiques agressives d'évitement fiscal privent les gouvernements d'une grande partie des revenus dont ils ont besoin pour garantir les droits économiques et sociaux qu'ils ont pour obligation légale de satisfaire. Cela comprend le droit aux biens et aux services, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier afin de mener une vie digne, comme le droit à un logement décent, à une éducation, à des services de santé essentiels et à une aide sociale adaptée. Lorsque des personnes ou des entreprises ne payent pas leur juste part d'impôts, ce sont donc les plus pauvres qui en souffrent le plus. À une époque où les gouvernements à travers le monde adoptent des politiques d'austérité en réduisant considérablement les dépenses en matière de santé, d'éducation, de logement et d'aide sociale, il est regrettable de laisser tant de personnes et d'entreprises fortunées amasser des milliards de dollars dans des paradis fiscaux. Il est temps de rendre des comptes. Les révélations affligeantes contenues dans ces documents, ainsi que les réactions qui ont suivi, doivent pousser la communauté internationale à chercher des solutions de toute urgence pour lutter contre l'évasion fiscale et à trouver des moyens d'amener les responsables à rendre des comptes. Les gouvernements doivent prendre de toute urgence des mesures pour réprimer l'évasion fiscale et des pratiques agressives d'évitement fiscal pratiquées par les particuliers et les entreprises fortunées. Ces gouvernements doivent en faire plus pour empêcher les paradis fiscaux et les comptables, avocats et consultants qui travaillent pour eux de se rendre complices de ces évasions fiscales à grande échelle. Nous avons entendu bien trop de promesses en l'air. Le moment d'agir est venu. Au nom des personnes les plus vulnérables au monde, nous nous devons de nous assurer que les personnes les plus riches ainsi que les entreprises les plus puissantes paient leur juste part. Et encore une fois, ce qu'il leur est demandé, c'est juste ça, de payer ce qu'ils doivent. Et donc, ce qui connaît notre corps, hein, de nous autour du micro, là, quand on a des impôts à payer, on ne nous demande pas si on veut les payer, on les paye.
Oui, sauf qu'ici, on supprime les impôts sur les grandes fortunes, hein, voilà. Une fois de plus. Voilà. Hein, les personnes qui gagnent peu, qui n'y arrivent pas, qui ont des enfants, qui ne peuvent pas forcément se permettre de partir en vacances ou de se faire des petits extras, ben, eux sont obligés de payer leurs impôts.
Exactement. Et c'est bien pour ça que ce nouveau scandale financier rend les choses encore un peu plus intolérables, parce qu'après, on nous dit, il n'y a pas de sous. Par contre, il n'y a pas de sous. Si on s'arrange pour ne pas aller en récupérer, c'est sûr qu'il n'y en aura jamais.
Alors,
pour conclure, j'entendais en venant justement M. Macron, notre président, qui était sur une radio, qui était en train de dire, parce qu'on lui reproche souvent en ce moment d'être le président.
Toi, t'écoutes des drôles de radio.
Des radios d'info, je ne sais plus avec quelle France, je ne sais pas quoi. Tant pis pour Principe Actif, hein, je ne sais pas pour Principe Actif, bien sûr. Et donc, parce qu'on lui reproche en ce moment souvent d'être le président des riches, et il a répondu, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être le président des riches.
Ah ben non.
Et j'ai éclaté de rire. Parce que
il n'a jamais été pauvre.
Parce qu'effectivement, bah on peut lui suggérer, hein, bah si vous ne voulez pas continuer à passer pour le président des riches, faites quelque chose par rapport à ce scandale d'évasion fiscale. Et là, effectivement, votre action vous rendra un peu plus crédible. Le président des riches, ça veut dire ça. Alors quand il dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, je considère quand même que c'est très hypocrite.
Quand on sait que Mme Bettencourt, qui est quand même elle est décédée, mais enfin qui était quand même une des fortunes importantes, n'a jamais payé d'impôts. Il y a de quoi, hein, les papers, là.
On va passer à autre chose, mais je vais quand même vous relire cette phrase qui est
un peu énervant.
Dans le communiqué d'Amnesty, qui est tout à fait, le temps que je la retrouve. Ah oui, c'est ça. Lorsque des personnes ou des entreprises ne paient pas leur juste part d'impôts, ce sont donc les plus pauvres qui en souffrent le plus. Voilà. Et ben, nous, on défend les droits des plus pauvres. Et on continuera.
Alors, j'ai lu un article sur les femmes philippines qui sont carrément qui travaillent pour des gens très bien, hein, dans des ambassadeurs, des grandes fortunes aussi, qui sont pas déclarées, qui sont maltraitées comme esclaves. Oui, c'est de la traite humaine. Oui. Donc voilà, faudrait peut-être qu'il y ait...
C'est pas fini,
donne l'exemple, là. Non, là, celui-là, il est encore là. Il est encore là, et à Paris...
Il me semblait bien, oui.
À Paris, dans certains, on en parlera peut-être la fois d'après, la prochaine fois, ou le mois prochain.
Bien. On va revenir au sujet du jour, là. Il y a Françoise qui veut vous parler d'un cas qui nous tient particulièrement à cœur au groupe d'Amnesty Évreux, mais c'est elle qui va vous en dire plus.
Oui, bon, ben, c'est le dossier que nous avons depuis le mois de peut-être février 2016. Un dossier concernant une jeune avocate thaïlandaise. Cette jeune femme a 31 ans et elle est à l'avant-garde de la défense des droits humains. Elle est cofondatrice de l'ONG Thai Lawyers for Human Rights, qui s'est donnée pour mission de défendre les droits humains après le coup d'État militaire de 2014. À ce titre, June défend régulièrement des clients qui font l'objet d'enquêtes et de poursuites pour l'exercice pacifique des droits humains et plaide en faveur de ces mêmes droits humains auprès des officiels du gouvernement, des diplomates, des structures des Nations Unies et autres. Elle risque une inculpation dans 3 affaires. Jusqu'à présent, elle n'était pas inculpée. Or, au mois d'août 2017, elle a été inculpée. Donc, elle est susceptible d'avoir un procès et d'être condamnée à une peine jusqu'à allant 15 ans d'emprisonnement. Donc, nous nous mobilisons, nous sommes plusieurs groupes d'Amnesty en France à avoir ce dossier, et nous nous mobilisons auprès des autorités thaïlandaises, bien sûr, mais aussi, tantôt, par exemple, je poster une lettre pour le ministre des Affaires étrangères français pour qu'il agisse auprès de son gouvernement et des autorités thaïlandaises pour faire que cette jeune femme ne soit pas incarcérée. Et je vous lis un modèle là de la lettre de soutien que nous enverrons à June pour les autorités du pays. Nous sommes très surpris, voire choqués, d'apprendre que vous avez inculpé l'avocate Sirin Khan Charo N. Siri, dont le surnom est June. Une avocate doit pouvoir assurer la défense de ses clients sans crainte de poursuites criminelles. Une avocate doit pouvoir utiliser toutes les procédures légales disponibles pour les aider. De telles inculpations jettent une ombre sur la Thaïlande. De nos jours, votre pays demeure une des premières destinations touristiques des Français en Asie, mais cela pourrait changer. En conséquence, je vous prie d'annuler les inculpations pour crimes prononcés contre Sirit Khan Chaowanzi dans le cadre de son activité professionnelle de défense des droits humains et de ses clients, ceci en accord avec les lois internationales et le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la Thaïlande en 1996. Vous remerciant de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ce cas qui nous préoccupe beaucoup, veuillez accepter l'assurance de notre haute considération. Je voudrais aussi vous signaler que cette jeune femme a été la première à recevoir un prix destiné à, comment dirais-je, féliciter, enfin, les avocats qui agissent pour les droits de l'homme. Elle a eu un prix à Amsterdam en mai 2017. Oui. Et nous, naïvement, nous pensions que ce prix allait la protéger. On lui a proposé de rester dans ce pays, la sachant menacée. Elle a refusé et elle a dit qu'elle voulait rentrer dans son pays pour continuer à agir pour la défense des droits humains. Donc je crois qu'elle mérite vraiment d'être soutenue. Alors si vous voulez participer à notre action, vous nous envoyez un mail vous donnant vos coordonnées. Et nous vous enverrons les lettres que vous devrez faire pour la soutenir. Alors, vous écrivez à amnesty.evreux@gmail.com. Voilà, c'est ça. Nous vous en remercions d'avance, c'est très important.
Voilà, tout à fait. Est-ce que ce qu'il faut bien voir dans ce que vous a dit François, c'est que ce qu'on demande effectivement par rapport au droit de cet avocat d'exercer normalement son métier pour défendre ses clients et de ne pas être menacé dans ce cadre-là, ça fait partie de ce pacte qui a été signé par la Thaïlande en 1996, ça veut dire noir sur blanc dedans, et ce qu'on demande encore une fois à la Thaïlande, c'est simplement de respecter sa signature, c'est-à-dire de ne pas chercher à inculper les gens au détriment des accords internationaux que le pays a signés. Donc voilà, on ne peut pas avoir un double langage. Malheureusement, on sait que dans la réalité, c'est souvent le cas. Mais nous, ça, on n'aime pas. Voilà. Donc, si vous êtes concerné par le soutien à Dieu, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Après, il y avait Ronan qui voulait parler de choses positives.
Bah justement, c'est... on va dire que c'est une coïncidence, parce que j'avais préparé une bonne nouvelle.
La Thaïlande.
Et c'est la Thaïlande.
Tout ça, c'est bien pensé quand même.
Non, c'est vraiment...
Si, c'est bien pensé.
Non. Parce qu'en fait, j'ai appris une chose hier soir, que je ne sais pas si vous êtes au courant, que la présidente d'Amnesty Thaïlande était accusée.
Oui.
Ah non.
J'ai entendu parler.
Voilà.
Hier soir
Non. Donc, le 6 novembre 2017, donc c'est...
Mais c'est pas vieux.
Si. Depuis 2016. En Thaïlande, les accusations contre Amnesty ont été abandonnées. Le procureur de la province de Pattani met officiellement fin aux poursuites pénales pour diffamation contre la présidente d'Amnesty International Thaïlande et deux autres défenseurs des droits humains. Donc l'affaire remonte en février 2016, lorsque le Cross Cultural Foundation, c'est le groupe de soutien chaleureux, ont publié un rapport conjoint recensant 54 cas de torture et d'autres mauvais traitements imputables à la police et l'armée royale thaïlandaise dans les provinces du sud de la Thaïlande. Donc, en fin de compte, la présidente a été accusée de diffamation. Donc là, elle a été acquittée. Pas acquittée, je veux dire, on a retiré...
Ces charges ont été levées. Oui, j'ai lu ça. J'ai
tout
lu
à fait. Et je n'étais pas du tout au courant quand j'ai vu ça hier.
J'en avais entendu parler, mais je crois qu'il y a d'autres sections d'Amnesty. En France, on n'en a pas trop parlé parce que d'autres sections d'Amnesty luttaient pour elle. Donc, je pense que c'est aussi un résultat des pressions qui ont été faites. Et donc, les charges ont été levées.
Tout à fait. Et c'est récent, depuis le 6 novembre. Donc, je me permets de dire ça, comme il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à...
Comme quoi, il faut écrire pour notre avocate, parce que quand on fait pression, effectivement, les autorités taillent, c'est comme ça qu'on dit,
oui,
tout à fait.
Les autorités taillent, n'aiment pas trop ce genre de publicité, et elles reculent.
Voilà.
Ouais.
Bah si.
Pas toujours.
Pas toujours.
Non, mais il faut dire quand il y a du positif, il faut le dire.
Bon, on va s'interrompre quelques secondes. Un petit moment musical, et on se retrouve après.
Thank you. n'est pas digne de guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Cherche la brute, va là où on parle dollars cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne.
L'empire de papier.
Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.
Alors, c'était, on vient d'écouter HK, Citoyen du monde. Alors, pourquoi HK ? Parce que à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, il va passer en concert à Paris pour soutenir Amnesty International. Et il propose le concert de clôture des 10 jours pour signer au Trianon à Paris à 18h. Si vous voulez y aller, en réservant, c'est 15€ et sur place, c'est 20€ le jour même.
Et c'est quoi cette chose sur les 10 jours pour signer ?
Et cette campagne mondiale et annuelle met en lumière les cas de 10 personnes qui sont menacées et en danger parce qu'elles se battent pour les droits humains, un peu comme June et comme tous ceux qu'on défend. Et les 10 jours pour signer sont organisés dans toute la France du 1er au 10 décembre. Et ce concert, c'est un concert de soutien. Après s'être déclaré citoyen du monde et s'être indigné de sa voix et de sa plume, après nous avoir promis qu'il ne lâcherait rien, après avoir allumé les étoiles avec sa joyeuse bande de saltimbanques, Ashka nous revient aujourd'hui avec un nouvel album, L'Empire de Papier. À écouter, ça vaut le coup. On retrouve ici toujours la même verve poétique, toujours le même engagement, la même diversité musicale avec des accents world, folk et reggae. Voilà, donc avec grand plaisir, on ira écouter Ashka et merci pour son soutien encore une fois.
Et petite information par rapport aux 10 jours pour signer, on en reparlera de toute façon, mais on peut déjà vous dire qu'on sera présent le samedi
9 décembre.
Qu'on fera un stand pour signer les pétitions pour les 10 jours pour signer devant la boutique d'Artisans du Monde en centre-ville. Voilà, on en reparlera de toute façon. Alors moi je vais vous parler d'un dossier qui est paru dans la chronique. La chronique c'est le mensuel d'Amnesty. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller sur le site d'Amnesty pour vous abonner. C'est une source d'informations très importante. Et surtout d'informations qu'on n'entend pas vraiment dans les médias à 20h le soir. C'est un dossier qui parle du droit à l'avortement. Alors le droit à l'avortement, ça fait partie pour Amnesty, comme vous en avez déjà parlé, comme on le disait au début de l'émission, pour les droits sur les droits économiques et sociaux, et le droit de disposer de son propre corps. Pour Amnesty, le droit à l'avortement n'est pas différencié d'autres droits, c'est-à-dire le droit pour les femmes de ne plus subir de mutilations génitales, par exemple, pour les femmes aussi de ne plus subir de violences conjugales, pour les homosexuels de ne plus être poursuivis, etc. etc.
Et pour les jeunes filles de ne pas être mariées de force aussi.
De ne pas être mariées de force, etc., etc. Donc parmi ces droits, effectivement, il y a le droit pour les femmes de disposer de leur propre corps, donc d'avoir des enfants si elles le veulent et quand elles le veulent, et quand ce n'est pas le cas, effectivement, de pouvoir pratiquer un avortement. Et Amnesty précise que la sexualité et la procréation relèvent de la vie personnelle de chacun. Ce sont des droits que les gouvernements doivent garantir et protéger. Et en ce sens, Amnesty demande de donner à chacun les moyens et le pouvoir d'effectuer des choix libres en matière de sexualité et de procréation, de lutter sans relâche contre toutes les pratiques discriminatoires et violentes qui peuvent limiter ou contraindre l'accès de ces droits, de supprimer toutes les mesures qui réglementent ou pénalisent l'accès aux droits sexuels et reproductifs, et de favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et aux services qui permettent de faire valoir et d'exercer ces droits de manière libre et consentie. Alors, quatre exemples, quatre pays dont je vais vous parler, qui sont dans ce dossier, et qui montrent bien que cette situation est loin d'être généralisée. Le premier, c'est l'Irlande. Parmi les quatre pays, il y en a trois qui figurent parmi les pays de la communauté européenne. Le premier, c'est l'Irlande. Alors, quelle est la situation en Irlande? L'Irlande est le seul pays européen à avoir introduit dans sa constitution le droit à la vie de l'enfant à naître. C'est-à-dire qu'on considère que la vie de l'enfant commence le jour même de la conception. Au même titre que celui de la mère. Approuvé par référendum en 83, ce 8e amendement interdit tout simplement l'avortement sur le territoire irlandais. Une femme enceinte ne peut avorter en Irlande après un viol, même après un viol, un inceste, en cas de malformation du fœtus, même s'il est avéré que celui-ci n'a aucune chance de survie. Chaque année, en Irlande, environ 4000 femmes quittent leur pays pour avorter à leurs frais à l'étranger. Le plus souvent, elles prennent le ferry pour l'Angleterre. On dit en Irlande qu'elles prennent le bateau. Ces voyages coûtent en moyenne 1500 euros. Celles qui n'ont pas les moyens de les payer, ou les immigrés qui doivent demander un visa pour sortir du territoire, prennent le risque d'avorter seules, parfois au péril de leur vie, dans le plus grand secret. Elles contactent des associations basées à l'étranger comme Women on Web ou Women on Waves et se procurent des médicaments abortifs commandés sur Internet. On compterait en fait plus de 1000 par an, et ce sont des criminels, entre guillemets, au regard de la législation en vigueur, passible de 14 ans de prison. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de mouvements sociaux, évidemment soutenus par Amnesty Irlande, qui se battent pour faire changer ça, et donc qui se battent pour la modification de la constitution irlandaise et le lancement, qui aboutit au lancement des premières marches for choice, En effet, depuis 2012, ces marches ont lieu chaque année en Irlande, le troisième week-end de septembre, avec pour objectif le retrait de ce 8e amendement et le droit à l'avortement, comme ils disent en anglais, « free, safe and legal », c'est-à-dire « libre », fait en sécurité et légal.
Ben oui.
Mais cette question de l'avortement reste encore tabou en Irlande en raison du poids de l'Église. Alors les médecins irlandais aussi évoluent dans un environnement contraignant. Les médecins aussi qui se prêtent quand même, enfin qui cherchent à faire évoluer les choses et qui cherchent à ce que les femmes puissent avorter. Ils peuvent informer leurs patientes sur les solutions qui existent en dehors de l'Irlande, mais c'est aux femmes de faire les démarches. Alors, il y a un de ces médecins qui dit « Jamais vous ne mentionnez le mot « avortement », jamais vous ne l'écrivez. Je dis juste aux femmes, si vous le souhaitez, je peux vous donner des coordonnées de l'un de mes confrères en Angleterre pour que vous ayez un second avis. » Bien sûr, la vie, c'est d'aller avorter en Angleterre. Les anti-avortements font des campagnes très violentes. Ils font peur aux gens. Ils médiatisent des cas d'avortement extrême au-delà de 30 semaines, mais n'expliquent pas leur contexte. Ils font croire qu'il s'agit de grossesses non désirées, alors qu'il s'agit en fait de cas génétiques graves.
Il faut savoir que l'Église est présente dans les conseils d'administration des hôpitaux en Irlande.
Exactement. Alors, en juillet 2013, les choses ont commencé à bouger. Le gouvernement avait décidé de légaliser l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes dont la vie pourrait être mise en danger pour des conditions médicales et psychologiques. La tension était alors très forte. Le Premier ministre, qui était même une femme, Enda Kenny, avait reçu des fœtus en plastique et des lettres écrites avec du sang. Mais pour Amnesty International Irlande, cette loi de 2013, au lieu de clarifier le cadre légal existant, n'a fait qu'apporter des contraintes supplémentaires à la procédure. À quel moment, en effet, définir le risque de mort? Parce que l'avortement n'était autorisé que dans ce cas-là. Cette fausse avancée n'a en fait, au final, qu'entériné un statu quo insupportable pour de nombreux Irlandais. Alors évolution toujours, en février 2016, le comité contre la torture de l'ONU a condamné l'Irlande pour non-respect du droit des femmes. En juin de la même année, le comité des droits de l'homme de l'organisation internationale lui demandait de modifier sa loi sur l'avortement, jugeant qu'elle soumettait les femmes à un traitement cruel, inhumain et dégradant. En parallèle, il condamnait l'État irlandais à verser 30 000 euros de dédommagement à Amanda Mellet, c'est une femme qui avait avorté, qui, apprenant en 2011 que son fœtus était atteint d'une trisomie 18 fatale, avait été obligée de partir avorter en Angleterre. Elle avait quelques semaines plus tôt déposé une plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et en juillet 2016, le gouvernement irlandais a décidé, contre toute attente, d'organiser un référendum sur le sujet au printemps 2018. Sa date n'a pas encore été arrêtée, mais les forces en présence se mobilisent. Alors voilà, en Irlande, effectivement, il y a un référendum sur la question qui est prévu en 2018. Pour l'instant, rien n'est gagné, mais on espère que les choses pourront bouger à cette occasion.
Quelle régression.
Deuxième pays...
Retour avant les années 76, voilà. Ici.
Dans la communauté européenne, toujours, la
Pologne.
La Pologne. Ouais. Alors, l'article qui est consacré à la Pologne commence comme ça. Varsovie, octobre 2016, 100 000 personnes manifestent contre un projet de loi pour l'interdiction quasi totale de l'avortement. Vêtus de noir pour symboliser le deuil de ce droit pour les Polonaises, les manifestants ne cachent pas leur exaspération face à ce mépris rétrograde. Devant l'ampleur de la mobilisation, les députés, y compris Jaroslav Kaczynski, le leader du PIS, le parti majoritaire conservateur, rejette le projet de loi. Mais le gouvernement et l'Église catholique restent ouvertement en faveur d'un durcissement de législation pourtant restrictive. En effet, en Pologne, l'avortement n'est autorisé que lorsque la santé ou la vie de la femme enceinte est en péril, dans les cas de viol et si le fœtus est atteint d'une pathologie grave. Aider une femme à avorter est un crime passible de 3 ans d'emprisonnement. En revanche, la personne qui avorte n'est pas poursuivie. Officiellement, 600 à 1000 avortements pour 10 millions de femmes en âge de procréer sont pratiqués en Pologne. Ça, c'est les chiffres officiels dans le cadre de la loi. En fait, le nombre annuel serait en réalité compris entre 100 000 et 150 000. Si on inclut les avortements clandestins et médicamenteux réalisés en Pologne, ainsi que ceux pratiqués à l'étranger. On retrouve la même situation qu'en Irlande. Effectivement, l'Allemagne, par exemple, et beaucoup de Polonaises vont avorter en Allemagne, bien sûr à leurs frais. Deux projets de loi d'initiative citoyenne sont en cours d'élaboration en Pologne, visant d'une part à établir des dispositions légales, et d'autre part à abolir le droit à l'avortement lorsque le fœtus souffre de grosses anomalies, exigences exigence contenue officiellement par l'Église catholique. Ces deux projets seront débattus au Parlement début 2018. Les deux projets, bien évidemment, sont en opposition. Il y en a un qui est pour une libéralisation de la situation et l'autre qui est pour une restriction des possibilités d'avorter. Le gouvernement tentera de satisfaire les exigences de son électorat conservateur et de l'Église, tout en essayant de réduire les risques de contestation populaire. Pendant ce temps, les Polonaises continuent à souffrir en silence. Alors là aussi, il faut soutenir la section d'Amnesty Pologne, qui lutte effectivement pour la possibilité pour les femmes polonaises d'avoir la liberté de leur corps et de pouvoir avorter. Troisième pays, et toujours un pays européen, Malte. Une toute petite île, là, coincée entre le sud de l'Italie et les côtes nord-africaines. Alors à Malte, l'avortement reste criminalisé sans exception. Là, il n'est même pas question d'avorter pour aucun cas. Pourtant, depuis la victoire des travaillistes aux élections générales de 2013, plusieurs lois progressistes ont été votées. En 2014, l'Union civile pour tous ouvre l'adoption aux homosexuels. L'année suivante, un texte autorise l'autodétermination du genre et la création d'un genre X, ni femme ni homme. En 2016, Malte devient le seul État européen à criminaliser les thérapies de conversion ou de guérison pour les gays, pour ceux qui veulent en fait effectivement changer de sexe ou avoir qu'on reconnaisse leurs droits. Et depuis juillet dernier, le mariage pour tous est possible. À la différence de nombreux autres pays européens, à Malte, ces dernières années, il n'y a pas eu une seule voix au Parlement s'élevant contre les droits LGBT. Alors, ce qui est complètement paradoxal, parce que le pays a une législation maintenant depuis l'été dernier extrêmement positive concernant les droits des homosexuels et complètement caricaturale concernant le droit à l'avortement. Alors cette cohabitation entre un esprit ouvert et des mentalités patriarcales en matière de droits des femmes à disposer de leur corps semble paradoxale. Elle se comprend en partie par la place accordée à l'enfant. Mais aussi, comme le rappelle Sylvie Andjus, c'est un des militants pour le droit à l'avortement, parce que les associations de femmes n'ont jamais réclamé l'avortement comme un droit des femmes. Pour elles, c'est un crime. Alors, malgré tout, les choses avancent. Il y a une militante pour le droit à l'avortement qui s'appelle Francesca Fenech-Conti, qui a ouvert une page Facebook qui s'appelle là-bas Women for Women. Et ce groupe réunit maintenant plus de 23 000 membres. Et une première bataille a déjà été remportée, celle de la pilule du lendemain, commercialisée depuis décembre 2016. En attendant que les mentalités évoluent, les Maltaises continuent d'échanger sur Facebook. Cet été, après la mort de Simone Veil, Francesca Fenech-Conti, dont je viens de vous parler, postait sur le groupe « En France, on apprécie la femme qui s'est battue pour les droits des femmes ». Et elle a reçu parmi ses réponses une intervention suivante « Pas sûr qu'elle le soit à Malte ». Voilà. Et le dernier pays, alors on va sortir de l'Europe là pour une fois, c'est le Salvador. Et c'est le pays qui est le dernier à être cité dans cette enquête d'Amnesty. Alors là aussi, au Salvador, l'avortement est purement et simplement interdit. Et il est depuis 1997, sous toutes ses formes. Peu importe que la vie de la femme soit en danger, que le fœtus ne soit pas viable, qu'une gamine de 11 ans victime de viol soit enceinte, peu importe aussi qu'une jeune femme débarque juste après une fausse couche à l'hôpital public et aux urgences en saignant abondamment. Dans le doute, le personnel médical appellera la police. Alors, un cas est cité dans l'article, et ça, là, je vais vous le lire, parce qu'on va sortir un peu des cas généraux, parce qu'il est particulièrement prenant, je trouve.
Théodora.
Alors, elle s'appelle Théodora. Elle est en prison pour avoir soupçonné d'avorter depuis 10 ans. Et donc...
elle est en prison depuis 10 ans.
En prison depuis 10 ans, voilà. Et donc le cas commence comme ça. Elle était belle, elle était jeune, elle était contente, elle était extravertie. Laurence Camilla, 14 ans, Yasmine, 17 ans, et Patricia, 20 ans. C'est elles qui disent ça. Elles n'ont pas vu leur tante Théodora del Carmen Velasquez, tu m'excuseras Sabine pour l'accent, depuis plus de 10 ans. Théodora est en prison, condamnée à 30 ans de détention pour homicide avec circonstances aggravantes, après avoir accouché, sans aide, en juillet 2007, d'un bébé sans doute mort-né dans les toilettes de son lieu de travail.
Où elle s'était évanouie.
Exactement. La famille de l'avorteuse, comme elle se décrit elle-même, a dû quitter son village d'Awa Chapan, dans l'ouest du pays, pour se rapprocher de la prison où est détenue Théodora et fuir les candidats. Sur la table de la pièce principale, des piles de lettres de soutien à Théodora, en espagnol, parfois en anglais, envoyées par des militants d'Amnesty International des pays voisins. Au milieu des lettres, une photo prise plus récemment, en prison, fait soupirer Yasmine, une de ses nièces. Théodora a vraiment vieilli. Avant la prison, elle travaillait dans un collège privé, dormait sur place et n'avait l'autorisation, selon sa sœur, de ne sortir qu'une fois tous les 15 jours. C'est lors d'une sortie qu'elle avait été agressée violemment en descendant du bus. Après 3 jours de douleur, elle avait demandé de l'aide, qu'on lui prête de l'argent, soit 20 dollars, pour prendre un taxi et aller à l'hôpital, ce qu'on lui avait refusé. Elle s'est réfugiée aux toilettes. Lorsqu'elle en est sortie, son bébé était mort. Et c'est la police qui l'a conduite à l'hôpital. Son procès, entaché d'irrégularités, est en cours de révision et la prochaine audience aura lieu le 8 décembre, donc le mois prochain.
On va suivre, on nage en plein cauchemar. Quand voilà. Même. Elle se fait agresser.
Moi, je suis écœuré.
Et donc, elle passe 10 ans en prison.
Donc, d'après Amnesty, et encore selon les renseignements obtenus sur place, mais c'est sans doute en dessous de la réalité, au moins 23 femmes, selon l'Association citoyenne pour la décriminalisation de l'avortement, croupissent actuellement en prison. La plupart purgent des peines de 30 ans, condamnées pour homicide. La justice les accuse d'avoir tout simplement tué leur bébé, parfois mort-né. Voilà. Alors, bon, je suis l'article, hein, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais il se conclut de la façon suivante, et ça, c'est un officiel du moins du pays qui le dit. « Nous vivons dans un pays où les croyances religieuses pèsent plus que les preuves scientifiques. » Oui, c'est bien un médecin, comme je le pensais. Et, le docteur s'appelle Mario Rosario. Il est coordinateur du département d'attention aux femmes et adolescentes du ministère de la Santé. Il déplore l'augmentation des suicides d'adolescentes dont, dit-il, le détonateur est la grossesse. Dans ce pays de 6 millions d'habitants, plus de 21 000 filles âgées de 10 à 19 ans ont consulté, merci Françoise, en 2016 parce qu'elles étaient enceintes. Et comme partout, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont les premières victimes de cette loi injuste. Ça me rappelle ce que j'ai dit en introduction de l'émission. Dans les milieux aisés, l'avortement reste tabou. Morale religieuse oblige, mais possible. Dans une clinique privée à San Salvador, à Mexico, tout proche, à condition d'obtenir un visa.
Et puis d'avoir de l'argent,
pour pouvoir payer.
Et donc, bien sûr, ce sont les pauvres qui sont en prison. Et les riches femmes salvadoriennes, elles, peuvent aller avorter malgré tout. Alors, je voudrais juste finir mon intervention en citant une petite conclusion. Une petite conclusion qui a été faite par Jacqueline Deloffre, hein, c'est une permanente d'Amnesty qui a coordonné ce dossier, et je pense que c'est tout à fait éloquent.
Elle est responsable de la commission femmes, hein, qui nous envoie les documents.
Ouais. Exactement. Et donc, ça commence comme ça. Nous, gouvernement participant à la 4e conférence mondiale sur les femmes, réaffirmons notre engagement à garantir la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des petites filles. La promesse était belle. Nous sommes en 1995. 189 États réunis à Pékin affirment que les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d'être maîtresse de leur sexualité, y compris leur santé, en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. Voilà, ça a été signé par 189 États en 1995 à Pékin. Et bien sûr, les États continuent à s'asseoir sur leur signature.
22 ans après.
Oui, Françoise, tu voulais dire.
Oui, non. C'est...
Voilà. Donc c'est un sujet un peu dur, mais ça me paraissait important qu'on vous en parle. Et on continuera à se battre. Hein. C'était dans le cadre de la dignité, ça a été un des sujets qu'on a traités. Mais on ne lâchera pas, on le reprendra effectivement. Et à l'heure actuelle, beaucoup de sections d'Amnesty continuent à se battre pour la généralisation, pour les femmes de disposer de leur propre corps et donc de pouvoir avorter lorsqu'elles le désirent.
Il y a quand même un chiffre qui fait froid dans le dos, puisqu'il y a 47 000 femmes qui meurent chaque année des suites d'avortements clandestins. Voilà. Et ça n'est que le début, parce que quand on parle de religieux, l'Espagne, qui était un pays religieux, s'est passé... l'avortement a été légalisé, le mariage pour tous aussi. Et il y a des pays qui régressent là, complètement.
C'est complètement fou. Aux États-Unis, c'est le cas, le droit à l'avortement avec Trump qui est en train de...
Alors, aux États-Unis, il y a un ministre ou un diplomate, hier, j'ai entendu ça à la radio, qui faisait un discours contre l'avortement. Et il y a sa copine qui a fait un tweet ou un, en disant « Mais oui, tu peux faire des beaux discours et tu m'as conseillé d'aller me faire avorter. » Donc, je crois qu'il a démissionné. C'est, ça date d'hier ou d'avant-hier.
Évidemment.
Voilà, les mecs qui nous dirigent.
C'est important de mettre les gens devant leur contradiction. Ça a été dit à plusieurs fois dans l'article, mais, enfin dans les articles, mais c'est fondamentalement important, effectivement. Je crois que...
Non, moi je sais pas ce que tu allais dire, mais moi je pense que.
Il y avait Sabine qui voulait vous parler de l'Égypte.
Ouais,
faire
mais
une
moi.
Nouvelle, ou
ouais.
Je dis qu'on est un peu perdu.
Moi je
pense,
nouvelle,
moi, je pense qu'après ça, parce que je la vois un petit peu quand j'ai entendu ça, je suis.
En fait, non, on n'est pas perdu, mais c'est pas fait.
Non, mais c'est vrai que ça fait mal d'entendre ça. Donc je me dis, c'est peut-être le moment de dire
oui,
une
bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est enfin libre après avoir été condamné à mort. Ça, c'est quand même quelque chose de beau.
Bah oui.
En Mauritanie, Mohamed Mkhaïtir a été condamné à mort en décembre 2014 pour une publication blasphématoire, une affaire absurde dans un pays qui n'a plus appliqué ce châtiment depuis plus de 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il a juste diffusé sur Facebook un billet intitulé « La religion, la religiosité et les forgerons » dans lequel il condamnait le recours à la religion pour justifier les pratiques discriminatoires à l'égard de la caste des forgerons. Par contre, je ne sais pas ce que c'est cette caste des forgerons, je sais qu'il en fait partie, mais bon, en tout cas, il a juste fait, quoi, enfin, compte, un billet sur Facebook, il a été condamné à mort pour ça, parce que...
Il était soupçonné d'apostasie.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il a été libéré.
Blasphème, il a blasphémé.
Supprimer la condamnation pour apostasie, quand même, il faut sortir un peu de ce genre de choses.
Tout à fait.
Donc, on porte intervention de notre ami Sabine après la pause musicale.
Tout à fait.
Allons-y.
Je voudrais vous dire ceci. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez afin que le monde sache ce qui nous arrive, à nous, les enfants.
C'est son homme là-bas, déguisé en soldat, sans espoir, ici-bas.
Enfant ne rime pas avec soldat.
All children need is loving.
Faut pas violer leur destin.
Our children don't need a bro with guns.
Ils ont besoin de pain et pas de plomb.
Can you hear me?
C'est pas de la chair à canon, yeah.
Voilà, on vient d'entendre effectivement un morceau qui a été composé pour un disque qui a été publié par Amnesty, il y a pas mal d'années maintenant, par rapport aux droits des enfants. Le morceau, il s'appelle Benamou, et il est consacré aux enfants soldats. Alors, on vous en dira un petit mot tout à l'heure des enfants, parce qu'il y a Sabine qui va vous donner une info. Mais on ne va pas tout vous dire tout de suite. Pour l'instant, Sabine va vous parler.
Ouais, généralement, c'est Françoise, la spécialiste des enfants.
Oui,
mais des fois, ça change.
Alors, moi, je vais vous saper le moral. On va partir en Égypte, hein, et avec un projet de loi qui définit pour la première fois l'homosexualité et qui prévoit des sanctions lourdes pouvant aller jusqu'à 5, voire 15 ans de prison. Plus de 60 députés égyptiens ont proposé une loi discriminatoire qui, pour la première fois dans le pays, incrimine explicitement les relations homosexuelles. Riyad Abdel Sattar, député du Parti des Égyptiens Libres, a provoqué cette nouvelle loi après avoir accueilli au moins 67 signatures de députés. Le texte doit être examiné et débattu par le Parlement lors de la session en cours. Si la loi est adoptée, elle sera transmise au président pour être promulguée. Condamner l'homosexualité ou sa promotion. Le projet de loi, qui comporte 7 articles, prévoit des sanctions allant jusqu'à 5 ans de prison pour avoir eu des rapports sexuels avec des personnes du même sexe qui sont qualifiées d'actes d'homosexualité. Dans le texte du projet, le fait de promouvoir ou encourager l'homosexualité est également passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Jusqu'à présent, les autorités égyptiennes se sont fondées sur la loi numéro 10 de 1961 relative à la prostitution pour inculper les personnes soupçonnées d'avoir eu des relations homosexuelles, de pratiques habituelles de la débauche. Une infraction passible d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Le projet de loi interdit également la promotion ou la diffusion publique de tout rassemblement ou de toute fête LGBTI par le biais de publications audio ou vidéo ou sur les réseaux sociaux. La peine maximale prévue pour ces faits est de 3 ans de prison. Le fait d'exhiber un symbole ou une pancarte LGBTI, tout comme la production, la promotion, la vente, la commercialisation de ce type de produit, serait également passible de 3 ans de prison au maximum. Ce projet de loi précise en outre que les personnes reconnues coupables seraient soumises, après avoir purgé leur peine, à des périodes de mise à l'épreuve équivalentes à la peine de prison qui leur a été infligée, donc double peine. Nous avons pu vérifier que les personnes mises à l'épreuve en Égypte sont souvent maintenues de force dans un commissariat local pendant 12 heures par jour et sont donc, de fait, privées de leur liberté, une fois qu'ils ont purgé leur peine. Le projet de loi comporte aussi une disposition qui donne aux autorités le droit de déshonorer publiquement les personnes condamnées au titre du projet de loi en publiant leur nom et la peine à laquelle elles ont été condamnées dans 2 journaux nationaux largement diffusés, alimentant les nombreux préjugés à l'égard des personnes perçues comme gays. En plus de proposer donc de sanctionner pénalement les relations homosexuelles, ce projet de loi vise aussi à alimenter les préjugés, l'humiliation, la haine à l'égard de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée. Déjà, plus d'un mois de répression. Ce projet de loi est le dernier épisode d'une répression sans précédent contre les personnes LGBTI, lancée par les autorités après le déploiement d'un drapeau arc-en-ciel lors d'un concert... au Caire le 22 septembre. C'est un vrai cancer, ce truc-là, cette nouvelle loi-là. Oui. D'après l'Initiative européenne pour les droits de la personne, au moins 75 personnes de différents gouvernements d'Égypte ont été arrêtées depuis le début de la répression contre les LGBTI ce 22 septembre. Certaines simplement parce qu'elles avaient la banderole,
Le drapeau
LGBT.
Arc-en-ciel.
La plupart d'entre elles ont été piégées aussi pour leur utilisation d'applications de rencontres en ligne. Parmi les personnes arrêtées, au moins 5 hommes ont été soumis à des examens rectaux, qui constituent une forme de torture. Et au moins 20 ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 6 ans, lors de procès particulièrement rapides. Les autres sont détenus dans plusieurs prisons et commissariats en attendant d'être interrogés par les procureurs. Ce projet de loi profondément discriminatoire serait un sérieux revers pour les droits humains et un nouveau coup fatal pour les droits sexuels en Égypte. Le silence du président Macron, les dirigeants mondiaux, en particulier le président Macron, qui a reçu le président Abdel Fattah al-Sissi le mois dernier à l'Élysée, doivent sortir de leur silence pour condamner cette répression homophobe au lieu de dérouler le tapis rouge pour accueillir le président égyptien dans les capitales européennes et signer de nouveaux contrats. Ils devraient profiter de leur influence pour faire en sorte que le Parlement abandonne ce projet de loi profondément répressif. Dans une décision de 1994, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé que les lois érigeant en infraction des actes sexuels entre adultes consentants du même sexe bafouaient le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Voilà, c'est le même pacte dont on parlait pour June tout à l'heure, d'ailleurs.
Voilà.
Et donc, M. Macron, c'est bizarre, hein, M. le président des riches, il ne s'est pas formalisé plus que ça quand il a reçu le président.
Non, ça ne les dérange pas.
Pourtant, quand il faisait campagne, quand il a fait sa campagne, il avait dit à Amnesty que les droits humains, pour lui, c'était un pilier incontournable de sa politique.
C'est
à géométrie variable.
C'est pas le premier président qui avait des...
Oui, malheureusement.
On en a vu d'autres.
François, alors, je vais vous parler d'Iran.
Ah, oui, je vais vous parler de l'Iran. Un médecin professeur d'université condamné à mort. Donc c'est une action urgente que nous avons et qu'il faut faire avant le 8 décembre 2017.
Il faut réagir rapidement.
Ahmad Reza Dajali, ressortissant iranien installé en Suède, professeur d'université, a été condamné à mort pour corruption sur terre à l'issue d'un procès manifestement unique. Sa condamnation repose sur des aveux entachés de torture qu'il a été contraint de faire pendant qu'il était détenu à l'isolement, sans pouvoir consulter son avocat ni communiquer avec sa famille. Cet homme est un prisonnier d'opinion.
Mais c'est quoi, corruption sur terre ?
Corruption sur terre.
Non, mais je sais, j'ai la même feuille
que
toi.
Oui, c'est le terme.
Non, mais j'ai la même feuille que toi devant les yeux, mais j'essaye de... Il a été condamné pour corruption sur terre. J'essaye de comprendre ce que ça veut dire.
Ça aurait été sur Mars, il aurait moins pris.
J'essaye de comprendre ce que ça veut dire. Quoi.
Ce ressortissant iranien installé en Suède, Ahmad Reza Dajali, scientifique, médecin et professeur d'université, a été condamné à mort et à une amende de 200 000 euros pour corruption sur terre, je redis bien, à l'issue d'un procès manifestement inique devant la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Selon le jugement du tribunal, ce médecin avait travaillé comme espion pour le compte d'Israël dans les années 2000. Selon l'un de ses avocats, le parquet n'a présenté aucun élément permettant d'étayer les accusations portées à son encontre. Le tribunal n'a pas non plus fourni de copie du jugement, mais a convoqué l'un des avocats le 21 octobre 2017 pour lire le verdict devant la cour. Ce monsieur, qui a donné ses cours dans des universités en Belgique, en Italie et en Suède, était en voyage en Iran pour des raisons professionnelles quand il a été arrêté par des agents du ministère du Renseignement en avril 2016. Sa famille n'a pas été informée du lieu où il se trouvait pendant les 10 premiers jours qui ont suivi son arrestation. Il a été détenu dans un lieu inconnu pendant une semaine avant d'être transféré à la section 209 de la prison d'Evin à Téhéran où il a été détenu à l'isolement. Il n'a pas été autorisé à consulter son avocat, a été contraint de faire des aveux devant une caméra et de lire des déclarations préécrites par les agents chargés de l'interroger. Il assure avoir subi une pression intense, les agents l'ayant notamment soumis à la torture et à des mauvais traitements, ayant menacé de l'exécuter, d'exécuter ses enfants qui vivent en Suède et sa mère âgée qui vit en Iran, dans le but de le faire avouer qu'il était un espion. Il nie les accusations portées à son encontre. Il a fait des grèves de la faim. Il affirme qu'elles ont été forgées de toutes pièces par les autorités. Dans une lettre écrite en août 2017 depuis la prison d'Evin, il affirme que les autorités iraniennes lui ont demandé en 2014 de coopérer avec elles pour identifier et recueillir des renseignements dans les États de l'UE. J'ai refusé et je leur ai dit que j'étais un simple scientifique, pas un espion. Le 24 octobre, le procureur général de Téhéran, durant sa conférence de presse hebdomadaire devant des journalistes, a déclaré, sans nommer précisément ce monsieur, que l'accusé avait assisté à plusieurs rencontres avec les services de renseignement israéliens du Mossad et leur avait fourni des informations sensibles sur l'armée et des sites nucléaires iraniens en échange d'argent et d'un permis de séjour en Suède. Donc nous appelons vraiment à l'action pour cet homme-là qui vraiment ne méritait pas ça. Donc vous écrivez, si vous êtes intéressé par ce cas, à amnesty.evreux@gmail.com. Merci beaucoup pour lui.
Voilà. Il est passible de la peine de mort.
Oui.
De toute façon, nous sommes contre la peine de mort. Quel que soit le motif, c'est bien évident.
L'antenne jeune.
Oui. Oui. Alors donc, on va terminer l'émission par notre actualité locale.
Une très bonne nouvelle, dirais-je.
Oui. Comme dans notre actualité locale. On va vous dire d'abord qu'il y a quelques mots. On est très content d'avoir officialisé aujourd'hui, parce que les documents ont été signés aujourd'hui, d'avoir officialisé aujourd'hui la création d'une antenne jeune d'Amnesty au lycée Aristide Briand. Et c'est grâce à quelqu'un du lycée, une lycéenne de première qui a rejoint le groupe d'Evreux à la rentrée de septembre et qui nous a proposé de créer une antenne jeune dans le lycée, avec qui on était déjà en contact les autres années. Et donc l'antenne jeune va commencer ses activités en faisant la campagne des 10 jours pour signer dont on vous a parlé tout à l'heure, donc du 1er au 10 décembre. Ce sera en fait dans la semaine du 3 au 9, quelque chose comme ça, qu'ils feront signer les pétitions. Ils mettront l'information dans le lycée, également au centre de documentation. Et les signatures auront lieu le midi pendant les permanences du self pour les gens qui viennent déjeuner au lycée. Voilà, donc ça, je vous donne un petit peu de détails, mais c'est important de vous mobiliser effectivement pour l'antenne jeune du lycée, si vous-même vous êtes lycéen ou si vous en connaissez. Dites-leur de s'arrêter à toute nouvelle antenne jeune d'Amnesty et surtout d'apporter leur soutien et de participer à ces actions. Voilà, enfin, on est très content d'avoir permis la création de cette antenne jeune et à qui on souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès et beaucoup d'avenir. Et Sabine va vous parler de ce qu'on fait samedi prochain. Là, ça vient très vite.
Oui, alors samedi 18 novembre, dans le cadre des droits de l'enfant, c'est la fête des droits de l'enfant qui est organisée par la cause des enfants qui fête ses 30 ans. Hein, donc il y aura beaucoup d'associations, venez nombreux les enfants. C'est de 10h à 17h à la maison de quartier de la Madeleine. Il y a des jeux, la radio, des fresques, du théâtre fait avec des ados, des parents, des chansons. Enfin, voilà. Une journée festive et sympa sur les droits de l'enfant. Et
nous, on y sera avec un jeu de loi.
Et les jeux pour les enfants aussi.
Voilà. Et donc, on précise quand même que l'entrée est gratuite. Il faut bien préciser que l'entrée est gratuite. N'hésitez
donc,
pas,
à la maison de quartier de la Madeleine, place Kennedy, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, de 10h à 17h, samedi 18 novembre.
Samedi 18. Et donc, on vous rappelle aussi, on vous en reparlera la prochaine fois, mais on vous rappelle aussi cette campagne 10 jours pour signer, du 1er au 10. Et donc, nous, on aura le stand
le
9 décembre, le samedi 9 décembre, toute la journée. Devant la boutique Artisan du Monde en centre-ville. Et puis on aura des clips radio, on vous les passera dans les prochaines émissions.
Et c'est quand justement notre prochaine émission ?
La prochaine émission, Françoise.
C'est le mardi 28 novembre.
Ah, t'as bien revisé, Françoise, c'est bien.
Mardi 28 de 19h à 20h.
J'ai posé la question avant que Didier me piège, parce que je ne savais pas la date. Donc.
On vous rappelle que les podcasts des émissions depuis plusieurs années sont tous disponibles sur le site de la radio, principactif.net, rubrique émission, Amnesty International. N'hésitez pas à les écouter, à les réécouter. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours d'actualité. Voilà.
Et le 10 décembre, si vous êtes sur Paris, HK, voilà. Au Trianon à 18h.
C'est un concert, on soutient aussi Amnesty. Donc voilà, on va se quitter maintenant et on vous donne rendez-vous le
mardi 28 novembre.
Bien.
Amnesty International.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.